Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut les fous du volant, bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission consacrée à la Formule 1. Je suis Gilles Delaposta et avec mon camarade Stéphane Vrignot, on va se préparer pour le Grand Prix de Monaco. Stéphane, en forme ?
Oui, en forme, tout à fait. Et toi Gilles, juste avant ce Grand Prix de Monaco ?
En forme princière même pour nous. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis aussi à vous abonner. Et comme ça, lors de la prochaine publication d'Un Fou du Volant, eh bien vous retrouverez directement ce nouvel épisode sur votre smartphone. Aujourd'hui, Stéphane, direction Monaco, donc pour la prochaine épreuve du championnat du monde de Formule 1. Et comme chaque année, l'épreuve monégasque donne le coup d'envoi de ce que l'on appelle la silly season, autrement dit, le marché des transferts qui commence. On s'intéressera aussi à trois pilotes qui seront tout particulièrement sous les feux de la rampe à Monaco. Charles Leclerc parce qu'il jouera à domicile évidemment, Daniel Ricciardo parce que Monaco est un petit peu son jardin, et puis Fernando Alonso parce que, il se murmure qu'on commence un petit peu à s'impatienter du côté de chez Alpine. Et puis on terminera en s'attardant justement sur ce circuit de Monaco absolument unique, magique. Et justement, on reviendra sur tous ces endroits absolument mythiques de ce tracé. Avant de débuter ce podcast des fous du volant, on voulait aussi passer un coup de gueule parce que donc, le Grand Prix de Turquie a été annulé et comme on l'avait évoqué avec vous la semaine dernière, la date du 20 juin avait bel et bien été envisagée pour un rendez-vous sur le circuit du Castellet, sauf qu'en fait, au lieu d'avoir un double header avec le 20 et le 27 juin en France, eh bien finalement, il n'y a plus le 27 juin qui était la date originelle du Grand Prix de France. On a tout simplement indiqué aux organisateurs du Grand Prix de France que le Grand Prix de France était avancé d'une semaine. Que les organisateurs se débrouillent pour être à l'heure, prêts en temps et en heure, que les gens qui ont réservé leurs billets d'avion, de train, leurs déplacements, leurs hôtels, se débrouillent pour être là une semaine plus tôt. Bon, c'est pas faire grand cas quand même de tous les gens qui travaillent ou qui sont passionnés de Formule 1 et qui avaient prévu d'être là le 27 juin. Bah, faudra être là une semaine plus tôt. On n'a pas trouvé ça très sympa. Je sais pas ce que t'en penses Stéphane, mais honnêtement, c'est quand même pas faire grand cas de tous ces gens.
Oui, quel mépris Gilles, franchement, pour le Grand Prix de France. Je rappelle que le terme Grand Prix, c'est une appellation française. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Le Grand Prix de France, c'est le Grand Prix historique dans l'histoire des Grands Prix. Donc, on est réduit à ça. Après avoir tant travaillé, mettre en place tout ça et s'incliner finalement devant des questions financières. Alors, je sais bien que l'année dernière, Red Bull avait fait beaucoup d'efforts pour avoir deux grands prix, pour prendre le risque de lancer le championnat du monde. Mais là, maintenant, il s'impose là comme ça. Et puis, le Grand Prix de France, c'est une valeur d'ajustement. Finalement, c'est très, très décevant.
Allez, le premier sujet des fous du volant aujourd'hui, qu'on pourrait intituler « Que la silly season commence ». La silly season, pour essayer de traduire, c'est un peu le jeu de dupes. Parce que parfois, il y a des agents qui font croire que leur pilote est en contact avec telle ou telle équipe, alors qu'en fait, pas du tout. Mais voilà, il y a un jeu de poker menteur qui se met en route. Et c'est traditionnellement à Monaco. Alors habituellement, il y a déjà eu un peu plus de Grands Prix. Là, on est quand même assez tôt dans la saison, hein, puisque ce sera seulement la cinquième épreuve au calendrier. Stéphane, je te propose de commencer par les poids lourds du championnat, parce qu'il y a beaucoup de pilotes dont les contrats vont s'achever à la fin de la saison 2021, quasiment la moitié du plateau, dont Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, les deux pilotes de chez Mercedes, et aussi Sergio Pérez. Là, on parle de poids lourds. Lewis Hamilton, qui avait beaucoup tardé l'année dernière pour renouveler son contrat, un an seulement chez Mercedes. Qu'en est-il pour le champion du monde ?
Alors, ce qui est amusant, Gilles, c'est que tu as dit que Monaco lance la silly season. Généralement, ce sont les agents qui font un peu parler de leurs pilotes, qui disent qu'ils sont en contact avec d'autres écuries, etc. Mais là, en fait, c'est Toto Wolff qui a lancé déjà des pistes. Et puis, Hamilton aussi, qui a expliqué qu'il voulait cette année raisonnablement signer au plus tard cet été avant le break. Voilà. Donc, d'ici fin juillet. Je rappelle quand même qu'effectivement, il avait signé son contrat 2021 le 8 février, donc à peu près 50 jours avant le début du championnat, ce qui est quand même très, très tardif pour une écurie de l'envergure de Mercedes. On ne parle pas de Minardi ou Ligier. Hein, là, c'était vraiment un gros contrat qui signait avec une grande écurie. Il y avait une ligne blanche en face de son nom sur les bulletins d'inscription sur la liste des engagés. C'est quand même assez curieux. Mais à cette époque, Wolff, ce jour-là, avait dit « Il faudra qu'on fasse mieux cette année et j'aimerais bien que l'on signe avant cet été. » Donc, l'initiative revenait à Wolff et Hamilton l'a reprise à son compte, alors, avantageusement, dernièrement.
Bon. Ça, c'est pour le contexte, mais on est bien d'accord qu'Hamilton va renouveler son contrat chez Mercedes. Il n'y a pas de suspense là-dessus.
Il n'y a pas de suspense et Wolff a dit on est d'accord sur l'essentiel et j'aimerais même qu'on fasse la même chose qu'en 2018, c'est-à-dire que je vais me rendre dans l'appartement de Lewis Hamilton, on va s'enfermer, on n'en sortira pas tant qu'on n'aura pas signé. En 2018, ça avait été 10 ans de négociation, il avait dit voilà, on était content, quand on est sorti, on était allé manger une pizza. Bon, donc normalement ça va se faire. Alors c'est assez amusant parce que Wolff il dit que ça n'est pas une question d'argent, faut-il le croire.
Pour lui, non.
Mais l'information quand même qu'il a donnée, c'est que manifestement, ce ne serait pas un contrat seulement d'un an. Alors trois, j'imagine difficilement, peut-être deux, sachant qu'Hamilton a bien réfléchi. En fait, il a dit pour porter aussi ma voix sur les causes essentielles que je défends, les causes de société, de l'inclusion, tout simplement. Je préfère être finalement en Formule 1 pour avoir plus de retentissement quand je parle que dehors. Donc, c'est peut-être aussi une raison pour laquelle il reporte sa retraite, pour notre plus grand plaisir, parce qu'il va allier le sportif et puis le sociétal. Voilà.
Alors, est-ce que Bottas va rester aux côtés d'Hamilton la saison prochaine? Là, pour le coup, c'est quand même nettement moins garanti.
Alors, Hamilton pousse quand même pour ça. Wolff a dit qu'il n'y aura pas de jeu de chaise musicale, qu'il discuterait d'avoir avec Bottas et que si Bottas fait le job, ça sera une affaire qui sera réglée. Mais par contre, Wolff, c'est là où il alimente un petit peu la silly season dont tu as parlé, c'est qu'il a dit pour l'avenir, alors les années suivantes, donc 2023 ou 2024, il a dit qu'il ne pensait pas simplement à Verstappen pour remplacer Hamilton et qu'il y avait quelques bons pilotes, quelques bons jeunes pilotes en Formule 1 qui avaient une voiture qui ne leur permettait pas de gagner pour l'instant, mais qui était sur la shortlist de Mercedes. Et on pense évidemment à George Russell.
George Russell, dont l'agent s'appelle.
S'appelle Toto Wolff. En fait, c'est Toto Wolff qui gère la carrière de George Russell, qui l'a passé un petit peu en couveuse chez Williams. Ça durera peut-être une année supplémentaire. Parce que Russell, qu'est-ce qu'il a d'autre comme solution? En y réfléchissant bien, il a peut-être Aston Martin. Si jamais Vettel prend sa retraite, donc là, ça lui ferait un bon baquet qui serait entre guillemets parrainé aussi par Mercedes, parce que Mercedes et Aston Martin sont liés au plan commercial,
oui, industriel.
Voilà. Et donc, ça lui ferait un point de chute plutôt intéressant et des top 10 à viser, des Q3 à viser. Mais autrement, il va rester chez Williams. Je le sens parti un petit peu pour faire une carrière à la Rosberg chez Williams, c'est-à-dire 4 ans d'apprentissage avant de passer dans une grande écurie qui était en l'occurrence Mercedes.
Alors, dernier gros bras du championnat, en tout cas dans un top team, c'est Sergio Perez. On n'évoque pas Verstappen parce que lui, il est en contrat jusqu'à 2024, hein, c'est ça, chez Red Bull.
2023,
d'accord. Donc on parle pas du néerlandais. Sergio Perez, lui, son contrat se termine à la fin de l'année et c'est pas garanti du tout que le Mexicain soit encore chez Red Bull la saison prochaine.
Ça dépendra de ses résultats, donc il faut vraiment voir comment est-ce qu'il développe un petit peu ce qu'il est capable de faire aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a un sentiment de flottement que le Mexicain reconnaît. Alors après, qui serait candidat? Je dirais un pilote AlphaTauri, Gasly ou Tsunoda, à voir. Là encore, en cas de résultat, mais ça patauge aussi un petit peu du côté de chez AlphaTauri.
On évacue le côté Ferrari, de toute façon les pilotes sont en place, on ne change rien. Un petit mot rapide sur McLaren, d'abord, Norris, Ricciardo, ça... Alors Norris éventuellement, mais a priori, ça ne devrait pas bouger.
Alors Norris, il a un contrat jusqu'en 2021 inclus, avec une option activable par McLaren, parce que la dernière ligne de contrat, c'est souvent l'écurie qui a la main dessus, à part s'il y a des notions de résultats à atteindre. Mais quand on dit Lando Norris, on parle de la valeur montante en Formule 1, et je pense que Toto Wolff vise ce pilote-là à terme pour remplacer aussi Hamilton. Parce que finalement, dans le raisonnement de Toto Wolff, quand il dit pour remplacer Hamilton, je ne pense pas forcément à Verstappen, ça voudrait dire qu'à l'échéance 2023-2024, il serait capable de changer ses deux pilotes d'un coup, donc de prendre Russell et un autre pilote talentueux qui pourrait être Lando Norris. Alors, il pourrait aussi, parce qu'il ne le prendrait pas directement dans son écurie, il ne pourrait pas, mais il est agent de pilote, comme tu l'as dit, Gilles. Donc, Norris pourrait tomber dans l'écurie, je dirais, entre guillemets, personnelle de Toto Wolff. Et être sous contrat avec Toto Wolff, continuer de piloter pour McLaren en attendant un volant chez Mercedes. Mais c'est un petit peu en filigrane ce que voulait dire Toto Wolff, qui ne l'a pas dit directement, mais c'est vraiment ce qu'on lit entre les lignes.
Alors, on va passer un petit peu plus loin dans le peloton, avec notamment Yuki Tsunoda qui débute, mais déjà son avenir est en question, parce que chez AlphaTauri, qui n'aura plus le soutien de Honda la saison prochaine, c'est Honda justement hein, qui a amené un peu Yuki Tsunoda dans ses valises. Où est-ce qu'il va là, le japonais?
Ben, je pense que l'aventure peut même se terminer en fin de saison si Honda ne fait pas un petit chèque, je pense, pour soutenir sa présence. Sachant que derrière, il faudra un pilote, encore une fois, c'est la même problématique, qui a sa super licence. Donc, qui viendra du vivier Red Bull qui est en Formule 2. Et pour l'instant, le championnat démarre juste. Tu ne sais pas qui aura sa super licence. Donc, ça serait spéculé. Mais ça serait peut-être aussi... sévère de lui faire qu'une saison et puis de le remercier. J'imagine qu'il restera chez AlphaTauri s'ils lui font faire une année d'apprentissage. C'est toujours un petit peu comme ça que ça se passe avec Helmut Marko.
Alors, à l'autre côté du spectre, hein, on parle du débutant Tsunoda, on va parler du vétéran Kimi Raikkonen. C'était déjà quand même presque une surprise de voir qu'il restait en fonction en 2021. 2022, à mon avis, Kimi va faire ses valises, non ?
Raisonnablement oui, à 42 ans en fin d'année, surtout que bon, Fred Vasseur l'a jamais dit directement, mais il n'était pas tellement favorable à reprendre Kimi Raikkonen pour une saison. Mais c'est Kimi Raikkonen qui avait, pour une fois c'est assez rare, qui pouvait activer l'option sur son contrat 2021. Donc il l'a fait. Fred Vasseur l'a dit très clairement, c'est Kimi qui décide. Là, je pense que on ira vers quelque chose d'autre, parce que Ferrari a envie de placer Mick Schumacher, ne veut pas le laisser végéter chez Haas. Donc je pense, ça c'est quelque chose dont on parle quand même depuis même l'hiver dernier, ouais, que Mick Schumacher débarquera chez Alfa Romeo l'an prochain, ce qui posera peut-être problème avec ou pas Antonio Giovinazzi, ça sera à voir. Sachant en plus que Ferrari veut aussi mettre Callum Ilott quelque part, donc il ira peut-être chez Haas pour prendre la place laissée vacante par Mick Schumacher.
Ouais, on se souvient hein, qu'il y avait eu un bras de fer entre justement Fred Vasseur et puis l'équipe Haas pour essayer de récupérer Mick Schumacher, et que Fred Vasseur, sur ce coup-là, n'avait pas réussi. Nikita Mazepin et puis Nicolas Latifi, on en sait un peu plus de leur avenir ou pas ?
Et c'est des pilotes payants, tout simplement, Gilles. Hein, tout le monde le sait, donc tout dépendra de l'avenir, si déjà le père de Nikita Mazepin se lasse des mauvais résultats. Il comprend qu'il va un petit peu dans une impasse et que c'est beaucoup d'argent dépensé pour rien. Il lâchera l'affaire. Donc, auquel cas, effectivement, Mazepin libérera un volant.
Et puis, on termine par nos Français, parce que, alors, du côté d'Esteban Ocon, finalement, ça surperforme hein, en ce moment pour le pilote alpine. On va en parler hein, directement un petit peu plus tard avec Fernando Alonso, mais pour Esteban Ocon, ça semble à peu près certain qu'il reste chez Alpine l'an prochain. Alpine, c'était une des pistes possibles aussi de Pierre Gasly, et ça se complique forcément pour le Normand, parce que voilà, Ocon est bien installé chez Alpine, que ses résultats pour l'instant à Pierre Gasly le placent, on va reprendre l'expression qu'on avait employée ces dernières semaines, un petit peu sous les radars pour le moment. Compliqué là pour Gasly.
Oui, alors j'en viens, je fais une petite parenthèse sur Ocon, parce qu'il y a quelque chose d'important, c'est que Toto Wolff a dit que pour l'instant, il le mettait un petit peu en réserve, Ocon, parce que Ocon, c'est un pilote Mercedes. Plus exactement, c'est un pilote qui est sous contrat avec Toto Wolff. Je rappelle que Toto Wolff a investi 10 millions d'euros pour lui faire gravir les échelons, c'est-à-dire pour lui payer ses saisons dans les différentes catégories, puis ensuite le faire démarrer chez Manor et puis chez Force India. Tout ça, ça coûte de l'argent directement ou indirectement. Et Toto Wolff a dit que le but d'un pilote comme de l'envergure d'Esteban Ocon, c'est d'avoir un contrat d'écurie d'usine. Donc c'est ce qui est le cas. Il développe son talent chez Alpine. Il faut continuer comme ça. Et Toto Wolff a dit, moi j'attends de voir ce qu'Alpine va faire. Il ne veut pas interférer. Et ensuite, le cas échéant, si ils ne sont pas d'accord pour prolonger, on verra ce qu'on peut faire. Mais j'imagine pas Ocon décliner la proposition d'Alpine qui a une option sur lui pour l'an prochain. Et ce qui, en fait, bloquerait peut-être l'une des pistes favorites de Gasly, parce qu'on se dit qu'il est dans une écurie B de Red Bull. Alors, Gasly, son espoir, au fond de lui, il l'a déjà dit, c'est de revenir chez Red Bull pour prouver une deuxième fois à Helmut Marko qu'il avait eu tort de le rétrograder dans l'écurie B. Mais, à part ça, on ne voit pas tellement où est-ce que Pierre Gasly pourrait aller, d'autant plus que AlphaTauri a une option aussi sur lui, donc ils peuvent l'activer et l'empêcher d'aller ailleurs.
Voilà, ça fait beaucoup de conditions et évidemment, il n'y a eu que 4 Grands Prix de disputés. Donc la Silly Season ne fait que commencer et il y a des chances qu'elle se poursuive jusqu'à la fin de la saison et pourquoi pas même un petit peu plus tard. Ça avait été le cas durant l'intersaison 2020-2021, ça pourrait l'être tout à fait cet hiver. Alors, à quelques heures du Grand Prix de Monaco, on a décidé de s'intéresser à 3 pilotes en particulier, 3 pilotes qui seront sous les feux de la rampe en principauté, à commencer, à tout seigneur, tout honneur, par Charles Leclerc qui va jouer à domicile. Charles Leclerc, cinquième en ce moment du championnat, en quête d'un premier podium. Hein. Il est passé tout près à 2 reprises, à Imola d'abord, à Barcelone lors du dernier Grand Prix d'Espagne. Et puis alors paradoxalement, ben, il va se retrouver sur un des circuits qui lui est statistiquement le moins favorable, hein, Stéphane. Il est un petit peu maudit chez lui, en fait, Charles Leclerc.
Oui, 4 courses depuis la Formule 2 et 4 abandons. 2 en Formule 2 en 2017. Alors, sur la première course, c'était vraiment un incident technique. C'était une roue mal fixée. La deuxième course, c'était un accident. Et puis, quand il est arrivé en Formule 1 chez Sauber en 2018, c'était des problèmes de frein. Et puis, un accident dont on se souvient sur la dernière édition en 2019 et un abandon à cause d'une voiture endommagée. Alors, ce qui est un petit peu embêtant, c'est qu'il avait essayé, enfin, il avait un petit peu surpiloté. Voilà, c'est un petit peu ça. Il avait le désir de trop bien faire. Et il faudra peut-être qu'il aborde ce Grand Prix autrement pour construire son week-end, ce qui est très très important, construire sa confiance et rester calme, je dirais, le samedi, puis le dimanche. On se souvient aussi qu'à Bakou, il avait fait une énorme erreur dans un Grand Prix en ville. Donc, il faut vraiment garder le contrôle. Donc, c'est là aussi l'enjeu. Mais je pense, moi, qu'il peut vraiment faire un gros coup parce que c'est peut-être le seul circuit où le pilote peut encore faire un petit peu plus la différence que d'habitude par rapport à la voiture.
Ah, je suis assez d'accord. En plus, on l'a vu quand même beaucoup, beaucoup mûrir. Il faut rappeler qu'il n'y avait pas eu de Grand Prix de Monaco l'année dernière et que depuis la saison passée, on a quand même le sentiment qu'il a beaucoup mûri, Charles Leclerc, et que c'est vraiment pas le même qu'on va retrouver là au départ de ce week-end à la maison et qu'il ne renouvellera sans doute pas les erreurs. Effectivement, l'envie d'en rajouter un petit peu plus parce qu'il est chez lui et qu'il a envie de faire plaisir, ça c'est un danger qui, à mon avis, risque, enfin en tout cas, qu'il devrait un peu mieux gérer aujourd'hui.
Je vois d'autant mieux Leclerc possiblement faire un exploit quand même. Alors peut-être derrière Hamilton et Verstappen, mais on se souvient qu'on a eu des résultats parfois surprenants à Monaco, Kubica qui se qualifie deuxième en 2010, au volant d'une Renault, même Ricciardo qui fait une pole position en 2016, Pérez qui est troisième sous la grille au volant d'une Force India. Je pense vraiment qu'il y a la place ce week-end, d'autant plus que ce week-end, Pirelli apporte ces 3 types de pneus les plus tendres. Et on sait que la Ferrari n'est pas très performante en pneus médiums et qu'elle va très très bien en pneus tendres. Et ça sera un véritable atout, ça sera une véritable carte à abattre pour Ferrari, qui par contre va arrêter son développement. Là, c'est Laurent Mieckès qui en a parlé, le directeur sportif, il n'y a pas très très longtemps. Ils ont reporté 90 à 95% de leurs ressources de développement technique sur 2022. Et Charles Leclerc l'a précisé, le temps maintenant qui va être consacré en soufflerie ou sur la voiture 2021, ça sera pour fabriquer des kits pour des circuits typés. On sait que le mois de mai, c'est vraiment, il y a une fenêtre de tir de 3 semaines à peu près là-dessus où on fait un kit Monza, on fait des kits un petit peu particuliers. Et après, vraiment, Ferrari sera sur 2022, mais je crois qu'ils le sont déjà. Ça plaide pas tellement pour Charles Leclerc, mais encore une fois, Monaco est tellement particulier que ça sera vraiment à lui de jouer. C'est lui qui peut faire la différence.
Alors, à l'opposé de Charles Leclerc, dont on a dit qu'il n'avait pas une énorme réussite à Monaco, il y en a un qui vraiment est dans son jardin à Monaco, c'est Daniel Ricciardo, alors, qui actuellement est 7e du championnat, qui a terminé 2 fois à la sixième place. Et puis, il a surtout battu son nouveau coéquipier Lando Norris pour la première fois lors de la dernière épreuve, le Grand Prix d'Espagne. Et alors, il a des statistiques qui sont assez étonnantes hein, à Monaco, Daniel Ricciardo, qui n'a été battu. Alors ça, c'est des statistiques que tu as relevées toi, Stéphane, qui n'a été battu que 2 fois en 8 qualifications, une fois par Jean-Éric Vergne, voilà, il faut quand même le signaler, et une autre fois par Max Verstappen. Ça, c'était quand même, voilà, histoire de dire qu'il faut s'appeler Vergne et Verstappen pour faire mieux que Ricciardo à voiture égale à Monaco. Et puis, les autres statistiques sont également très, très largement positives pour Daniel Ricciardo, Stéphane.
Oui, il fait 2 pole positions en 2016, c'est un véritable exploit. 2018 aussi, et c'est sa dernière victoire d'ailleurs en Formule 1 en 2018 où il avait eu un problème, je crois, de récupération d'énergie. Il avait fait un Grand Prix de 50 ou 60 tours vraiment de résistance pour rester en tête, et c'est ce qui lui avait valu vraiment de passer un petit peu dans une catégorie supérieure, d'être bankable sur le marché. Et c'est là, je pense, que Renault l'avait remarqué en se disant « c'est ce pilote qu'il nous faut ». Pour l'avenir, il avait quand même décroché un contrat de 50 millions d'euros pour 2 saisons. Donc, c'était quand même le jackpot. Alors, la difficulté, c'est que cette année, les voitures évoluent peu. Et chez McLaren, on demande à Ricciardo, comme d'autres écuries demandent à leurs pilotes, Red Bull par exemple par rapport à Perez, d'adapter leur style de pilotage. Et là, Ricciardo, il a des problèmes, surtout, on l'a appris récemment, de frein vraiment sur la voiture. Il la sent pas bien. Et à Monaco, c'est assez rédhibitoire. Oui. Alors, il faut espérer que McLaren ait solutionné ces problèmes-là. Autrement, il n'y aura pas d'exploit possible.
Exactement. Mais bon, il ne faut jamais écarter Daniel Ricciardo. On l'a vu à plusieurs reprises. Et puis, surtout là, sur la lancée, de Barcelone, où il a fait mieux que Lando Norris, et mine de rien, faut pas sous-estimer hein, ça. Il arrive dans une équipe où Lando Norris est vraiment l'enfant chéri, au bout du 4e Grand Prix seulement, réussir à faire mieux, ça va vraiment le doper, et faut vraiment pas l'écarter d'un exploit possible ce week-end. Il y en a un d'ailleurs qui aurait besoin d'un exploit, c'est Fernando Alonso, 12e du classement des pilotes, avec la moitié de points que son coéquipier Esteban Ocon, 5 points pour l'Espagnol. Oui, mais voilà, Fernando Alonso s'est imposé 2 fois en principauté, c'était en 2006 et en 2007. Ocon n'était pas bien vieux d'ailleurs à cette époque-là. Un retour pas vraiment gagnant pour l'Espagnol. Hein. Si on regarde les statistiques, on va commencer par celle de qualification. Alors, il avait été plus performant lors du premier Grand Prix à Sakhir, mais je crois qu'Ocon avait été gêné en qualification pour faire son chrono. Derrière, il a systématiquement été dominé par le Français, 9e, 6e, 5e, qui lui ne fait que progresser en qualification. Ça progresse aussi pour Alonso sur les 3 derniers Grands Prix, mais un petit peu moins. Et puis, en course, pour l'instant, Alonso n'a strictement jamais terminé devant Esteban Ocon. Abandon à Sakhir, 10e à Imola, 8e au Portugal, 17e ensuite au Grand Prix d'Espagne, où alors, clairement, il a bu la tasse dans la deuxième moitié de la course. Et alors, on disait que on commence un petit peu à s'impatienter du côté de chez Alpine, Stéphane, et notamment une petite phrase hein, de Marcin Butkowski, qui quand même commence à dire que maintenant, ça serait bien que ça se mette en route.
Oui, Marcin Butkowski, qui est le directeur général de l'écurie, a dit qu'il ne pensait pas que Fernando Alonso serait si lent pour se réadapter à la Formule 1. Alors, ce n'est pas réellement une petite pique, c'est juste un constat pour l'instant.
Ce n'est pas un compliment,
c'est monter
en tout cas.
Un petit peu la pression. Non, et bon, Alonso a l'habitude de gérer la pression, mais c'est simplement une information qui filtre, qui devient publique, on va dire. Alpine met un petit peu quelques réserves là-dessus. Alonso avait dit qu'il lui faudrait 4-5 Grands Prix pour s'adapter. Là, il rentre quand même dans le Money Time. Alpine essaie de lui donner aussi des cautions pour performer ce week-end, et spécialement ils vont modifier sa direction assistée. Alors moi je me souviens d'un petit épisode en 2012, Raikkonen qui était chez Lotus, l'ancienne écurie Renault, donc basée à Hindstone, il prend la voiture le jeudi matin, il fait un tour, il rentre, il dit vous me changez la direction assistée. Bon. Et il n'a pas tourné de toute la séance, les mécaniciens étaient furieux. Les gens dans l'écurie disaient Raikkonen n'est vraiment pas impressionnant techniquement. Bon, alors sauf que c'est le point sensible pour Raikkonen, la direction assistée. Et il se trouve que Alonso n'aime pas tellement non plus cette direction assistée. Il dit qu'il ne sent pas bien le poids de la direction par rapport à dans cette Alpine qui change un petit peu de ce qu'il avait l'habitude d'avoir en Formule 1. Donc Alpine a vraiment fait un effort là-dessus, spécialement, et je pense que c'est aussi un petit peu l'expérience Raikkonen. Ils ont dit, Monaco, c'est vraiment spécifique, il faut lui donner le maximum de gages pour qu'il réussisse. Mais c'est vrai que Alonso a dit, globalement, pour l'instant, je me donne à 100%, et j'en suis conscient, c'est clairement pas suffisant par rapport à Ocon, par rapport au niveau aussi qu'il veut atteindre. Et là-dessus, c'est vraiment la question, quoi.
Exactement, on va voir comment ça va se passer pour l'Espagnol, s'il peut inverser la tendance par rapport à Esteban Ocon, mais ça y est, mine de rien, le chrono est déclenché, comme tu le disais, il avait dit avant le début de la saison 4-5 Grands Prix, faut pas oublier quand même que Fernando Alonso doit s'adapter aussi, il a fait 2 ans loin de la Formule 1, il doit aussi revenir d'un gros accident de vélo, on l'a déjà évoqué depuis le début de la saison, je pense que ça passe un petit peu sous les radars, pour reprendre une expression qu'on emploie régulièrement, mais il a eu un gros accident, il a quand même une plaque dans la mâchoire. Il a plus 20 ans, on s'en remet pas pareil. Ça fait beaucoup de choses quand même. La brouette, elle est bien chargée là pour Fernando Alonso pour revenir en 2021. N'empêche que tout double champion du monde qu'il est, on voit que le compteur tourne pour lui aussi. Et les petites phrases comme celle de Marcin Butkowski, même si c'est pas foncièrement pour lui mettre le couteau sous la gorge, ça veut quand même dire que on évalue la performance de l'Espagnol et que c'est pas le commendatore, pour reprendre un terme italien, absolu dans l'équipe.
Mais il faut quand même le dire aussi, Butkowski a dit à cette occasion, dans ces mêmes propos, que il ne remet pas en question l'éthique de travail d'Alonso. Il a dit il a une démarche qui est vraiment une approche qui est humble, qui est mature. Il dit je ne pense pas qu'il ait sous-estimé quoi que ce soit dans l'approche du métier. Donc là-dessus, il se donne à 100%. Ils sont très contents de ça. C'est juste que pour l'instant, mais il n'arrive pas encore à traduire ça en résultat.
Ouais, c'est ça.
Mais alors, la petite question aussi qu'on peut, enfin, que moi je m'étais posé après mon mélo, c'est je me dis, est-ce que de par son expérience, Alonso n'est pas, je dirais pas le premier responsable de cette stratégie erronée à un arrêt, mais je trouve ça surprenant de la part d'un double champion du monde qui comprend un petit peu normalement toutes ces questions-là de stratégie. Et Martin Buskowski a dit qu'il n'exploitait pas la voiture à 100% pour l'instant, et j'entends par là aussi la compréhension des pneus.
Oui, alors si j'en rajoute aussi à ton argument, ça. L'erreur de stratégie d'Alpine en Catalogne, on l'avait analysé la semaine dernière. Quelque part, elle fait aussi un petit peu le jeu de Fernando Alonso, parce que il peut leur rétorquer vous n'êtes pas parfait, vous n'êtes pas parfait non plus. Donc ça lui donne aussi un petit peu plus de temps. Et c'est sans doute bienvenu pour l'Espagnol. Monaco, c'est donc la prochaine étape du championnat du monde de Formule 1. Et dans les fous du volant, on voulait quand même s'intéresser à ce circuit qui ressemble absolument à aucun autre. On peste souvent sur les circuits PlayStation où on a le droit de sortir de la piste sans aucune conséquence. Là, il n'y a même pas le droit de sortir du vibreur. C'est un rail ou un mur qui vous attend à Monaco, un tracé le plus court de la saison, un tout petit peu plus de 3 km au bord de la, de la Méditerranée, un circuit urbain qui a été longtemps emprunté, hein, depuis des dizaines et des dizaines d'années, sauf que en l'espace de 30 ans, mine de rien, les autos, elles ont pris du volume, hein, c'est une Formule 1 d'aujourd'hui fait quasiment une fois et demie la taille d'une Formule 1 d'il y a quelques années, donc quand il faut se faufiler entre les rails, c'est quand même compliqué. Stéphane, tu voulais revenir un petit peu sur tous ces noms mythiques qui jalonnent, c'est un peu plus de 3 km du circuit de Monaco.
Oui, pour compléter ta description, Gilles, Piquet avait dit un jour, chaque fois qu'il revenait à Monaco, il se plaisait à dire « rouler à Monaco, c'est comme faire du vélo dans son salon ». Pour souligner vraiment, c'est pas l'absurdité, mais l'anachronisme que ça représentait pour lui, juste pour lui. Voilà. Et Monaco aussi, pour moi, c'est un circuit qui ne se laisse pas apprivoisé par un pilote qu'il n'aime pas trop. On sait que Jacques Vinhomme n'était pas fan du circuit de Monaco. Il n'y a jamais gagné. C'est un peu spécial. Et puis, Monaco, c'est aussi une montée en puissance, finalement, du jeudi au dimanche. On sait qu'il faut faire aucune erreur. Et il faut se rapprocher de plus en plus près des rails, les toucher, s'appuyer, mon calife pour aller chercher un chrono. C'est ça qui est extraordinaire. Et Marc Weber, qui a quand même triomphé deux fois, disait « s'approcher des rails, c'est comme une drogue. À Monaco, on en veut toujours plus, on en redemande. » C'est ça qui est extraordinaire. Tu sais, mais c'est vrai que Monaco…
Je me permets de te couper parce que tu disais c'est trop dur pour être dompté. Il y a un circuit aux États-Unis, en NASCAR, hein, à Darlington. Le surnom de ce circuit, c'est « too tough to tame ». Autrement dit, trop difficile pour être dompté. C'est exactement ça, Monaco, en fait. Il faut le craindre.
Il faut le craindre, il faut avoir beaucoup de respect pour ce circuit, il ne faut pas s'exciter le jeudi parce qu'on commence mal le week-end, ça casse la confiance, il y a vraiment une transition qui doit être faite du jeudi, ce qu'on a construit vers le samedi, et on voit, pas tous les ans, mais presque, que des pilotes qui commencent à mal appréhender ce circuit le jeudi ne s'en sortent pas ensuite. Mais pour effectivement revenir à Monaco, c'est l'un des circuits qu'on aime. C'est pas que c'est old fashion, mais c'est un circuit historique dont on connaît tous les virages, tous les noms de virages. C'est pas des numéros simplement. C'est ça qui est extraordinaire et où on se souvient quasiment d'un fait, d'une anecdote, de quelque chose dans chaque virage. C'est ça qui est savoureux. C'est ça qu'on va aimer revoir pendant 3 jours sur le Grand Prix de Monaco, à commencer par, tu l'as dit, cette première ligne droite qui va vers le premier virage qui s'appelle Saint-Dévote, qui est une forme de goulet et où déjà des pilotes y laissent beaucoup d'illusions dès le départ.
Exactement. Ensuite, on monte vers Massenet. Fais-le ton tour des souvenirs, en fait, parce que c'est toi le grand spécialiste de l'histoire. Vas-y.
Je dirais, tu parles de Massenet, effectivement, Gilles. Mine de rien, c'est un virage qui se prend, je crois, à 270 km/h. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ce qui choque la première fois qu'on fait le tour de ce circuit. On se dit, mais ça passe là, vraiment, à 270. C'est ahurissant, proprement. Mmh. Franchement, c'est peut-être l'endroit le plus surréaliste du championnat. Parce que c'est pas, on n'arrive pas à s'imaginer la performance des voitures, et c'est pas un virage non plus anodin, parce que toute faute aussi peut se payer très cher. 2010, Alonso sort le samedi matin en essai libre 3, il casse la voiture, faut la réparer, donc il touche le rail, il finit dans le rail à Massenet, il fait pas la qualif, il part dernier, il finit cinquième en course, et il lui manque des points précieux pour être champion du monde en fin de saison. Donc là, on retrouve l'aspect un petit peu punitif. Mais il y a aussi d'autres passages qui sont un petit peu plus intéressants, je dirais des passages peut-être un peu tactiques, comme la descente de Mirabeau, qui est un premier moment aussi, un deuxième moment chaud après le départ. C'est ce virage qui va vers l'épingle du Grand Hôtel. Et c'est là, spécifiquement, on s'en souvient, en 2014, je crois, c'est là que Rosberg avait filé dans l'échappatoire. Gilles, on s'en souvient. Et c'est là où, en fait, il avait déclenché un drapeau jaune, comme par hasard, au moment où Hamilton était derrière, était lancé dans un tour qui promettait de lui ravir la pole position. Donc, faut un petit peu jouer sur tous les registres à Monaco. Et Hamilton avait dit, je sais ce qui s'est passé ce jour-là, même si Rosberg ne l'a jamais avoué.
Il ne l'a jamais reconnu, effectivement. Après, il y a effectivement cette épingle qui est l'endroit le plus lent de tout le championnat du monde de Formule 1, hein, cette épingle à gauche où il faut venir en butée de volant pour les pilotes. Quand vous êtes là, quand ça vous arrive, hein, vous êtes dans le coin, vous passez là en voiture, vous dites c'est pas possible que ça passe en Formule 1. Bah si, on y va, et il y a même des dépassements, parfois ça se termine mal.
Oui, il faut démultiplier la direction de la voiture parce que on poserait une voiture qui servirait pour n'importe quel autre circuit, on la mettrait à rouler à Monaco, mais en
Elle
fait, elle
tournerait
ne serait
pas.
pas capable de prendre ce virage. Tout à fait. Mais alors, cet ancien LEPS qui s'appelle maintenant l'épingle du Grand Hôtel, si elle n'a pas changé de nom depuis, mais ça donnait lieu à quand même à quelque chose d'assez extraordinaire. 2004, Jaguar fait une opération de promotion d'Ocean's 12, donc un film qui sort à grand renfort de battage publicitaire, et ils sont associés à un grand joaillier qui décide en fait d'embarquer sur la voiture, sur le museau de la voiture de Chris Anklin, un diamant de 59 carats d'une valeur de, je crois que c'était 270 000 euros de
C'est
l'époque.
pas une bonne
Et
idée.
bien, qu'est-ce qui se
Comment
passe?
personne ne leur a dit non, les gars, c'est pas une bonne idée.
Voilà. C'est comme si on avait cette idée-là cette année avec Nikita Mazepin
C'est ça.
ou Yuki Tsunoda, dire les gars, vous allez faire un tour avec un diamant sur votre voiture, tout va bien se passer. Bah, ce qui devait arriver arriva. Clean a tapé dans cette fameuse épingle et on n'a jamais retrouvé le diamant.
Voilà, c'est
Voilà,
ça.
alors il
Le
s'est envolé
Yukun-kun,
mystérieusement.
de la Formule 1, il est là.
Tout à fait, tout à fait. Et puis ensuite, Gilles, tu parlais de ces grands moments. Alors, il y a le portier, on se souvient ça s'était popularisé par Ayrton Senna. C'est là où il tape en 88 alors qu'il a course gagnée.
Ouais.
Ça ouvre sur le tunnel. Ensuite, c'est la chicane. J'aime bien ce moment, ce pif-paf, parce qu'il faut vraiment être propre, réaccélérer très tôt. Ensuite, vers le virage du tabac, qui, mine de rien, est un virage très, très compliqué. Ça s'est tendu, il faut être précis. Puis là, c'est l'arrivée sur la chicane aussi, le S de la piscine, qui est un autre moment extraordinaire. Il faut être en super confiance, il faut avoir un super équilibre. Et c'est l'endroit où, quand même.
Pardon, je t'ai coupé dans ton élan. Cet endroit-là, le S de la piscine, moi, je me souviens, la première fois où j'ai vu les Formule 1 rouler à Monaco, c'était à cet endroit-là. Je me souviens la première voiture arrivant, je ne saurais même pas te dire qui c'était, juste le cœur se mettre à se battre en disant, mais il est fou! Et c'est passé. Et
Ouais,
ça
c'est.
m'avait fait le même effet quand j'avais vu Sébastien Loeb passer pour la première fois en spécial de rallye, c'est-à-dire tu te dis, oh, mais en fait la première image que je vais voir c'est un accident. Ah ben non, mais ça passe. Mais comment ils font? Comment ils survivent? C'est le changement de direction là, il est d'une violence exceptionnelle.
Oui, et puis il faut pas négliger non plus la sortie. Max Verstappen s'en souvient très très
Il y en
bien.
a quelques-uns là.
Deux sorties de piste, 2016-2018, copie conforme.
Ouais.
À la sortie, il tape le rail et c'est en 2018 quand même qu'il avait encore appris des choses. Il avait eu un bon remontage de bretelles de la part d'Helmut Marko qui n'avait pas apprécié qu'il lui fasse la copie conforme 2 ans plus tard.
C'est ça.
Et puis après, on va vers la rascasse. Alors ça, c'est pour moi la rascasse, malheureusement, c'est le coup que fait Schumacher en 2006. On est en 2006, il a commencé le premier Grand Prix en 2000, en 92, oui. Donc j'ai regardé un petit peu avant pour préparer ce sujet. Il était passé plus de 3 000 fois dans ce virage et d'un seul coup, il passe plus, il n'y arrive plus. On ne sait pas pourquoi. Et là, comme par hasard aussi, il y avait Alonso qui était dans son dos, on était en qualif et Alonso était en train de battre son temps de la pole position et lui, il avait tout stoppé. Il avait été rétrogradé sur la dernière place. Mais la rascasse, c'est pas que ça. Pour toi, Gilles, je sais.
Non, alors moi, mon souvenir de la rascasse, c'est le dépassement de Jules Bianchi sur Kamui Kobayashi en 2014. Il n'y a pas la place de passer au moment où Bianchi y va avec sa Marussia à l'époque. Mais en fait, il se crée la place en touchant un petit peu la roue arrière droite de Kobayashi, en touchant la roue avant droite. Après, enfin, c'est un dépassement qui n'existe pas en fait dans la réalité. Il a réussi à le créer. Voilà. Et après, malheureusement, l'histoire a fait qu'on n'a pas eu d'autres souvenirs de Jules Bianchi à Monaco. Si je parle de souvenirs, il y a aussi le décompte. Tour après tour, l'attente, ça a longtemps été Monaco le cadre de la dernière victoire d'un Français en Formule 1, grâce à Pierre Gasly, ça ne l'est plus. Mais voilà, cette attente de se dire, mais c'est pas possible, cette course, elle va jamais se terminer, ça c'était en 96. Enfin voilà, après, il peut y avoir aussi des courses ennuyeuses à Monaco, mais rien qu'à regarder débouler, je trouve que la télévision a aussi fait beaucoup de progrès pour montrer la vitesse à laquelle ça déboule dans les rues monégasques. Bon, c'est toujours un rendez-vous un petit peu particulier en principauté, et on a toujours une tendresse un petit peu voilà, plus que pour les autres circuits sur ce tracé de Monaco, non?
Oui, et puis alors pour finir notre tour, hein, il faut s'appuyer une dernière fois sur le vibreur de la bordure du dernier virage, qui est quand même pas rien non plus.
Anthony Noguès.
Arsenal faisait très bien, ça s'est réservé aux plus grands forcément. Et puis quand on franchit la ligne d'arrivée en vainqueur, il y a les sirènes des bateaux du port. Alors ça aussi, c'est un moment assez magique. Il y a une communion dans ce port qui se fait, même si… Monaco a beaucoup de qualités, c'est le prestige, c'est le rendez-vous attendu, c'est aussi un rendez-vous qui aime bien les pilotes, parce que on tourne pas le vendredi et ils ont le quartier libre quasiment. Ils font quelques opérations de promotion, mais ils sont pas tenus d'être sur le circuit. Donc c'est un circuit qu'ils aiment bien aussi pour ça. Mais c'est vrai que c'est pas le circuit avec la plus grosse ambiance, on va dire, dans les tribunes. C'est pas ce qu'il faut attendre en premier à Monaco.
Ouais, sauf que là, il y en aura peut-être un peu plus finalement. En tout cas, le décalage sera peut-être un peu moindre, parce que comme il n'y a personne dans les tribunes sur les autres Grands Prix,
quasiment,
là, oui. Voilà, cette année, ça va peut-être changer. Puis on disait hein, que Charles Leclerc était à domicile, mais il y a aussi beaucoup de pilotes de Formule 1 qui demeurent à Monaco. Donc forcément, s'ils ne roulent pas le vendredi, ben, ils sont tranquilles à la maison ou éventuellement en ayant quelques contacts déjà avec les agents pour la suite. La dernière spécificité, Stéphane, de ce week-end de Monaco, c'est que, tu l'as dit, ça roule le jeudi. Donc, premier essai libre, jeudi à partir de 11h30. La qualification, elle, reste sur un format classique samedi à 15h. Et le départ, évidemment, du Grand Prix sera samedi également à 15h. Ce podcast des Fous du Volant, qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis aussi à vous abonner, comme ça, pour le prochain numéro des Fous du Volant, eh bien, vous recevrez directement ce nouvel acte directement sur votre smartphone. Stéphane, on a tout dit, il ne reste plus qu'à te souhaiter, à nous souhaiter, à tous, à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, un bon Grand Prix de Monaco.
Oui, tout à fait. Et puis on va terminer par la phrase
traditionnelle.
Traditionnelle.
On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là,
on coupe le contact.
Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.